L'économie sociale et solidaire, tout le monde en entend aujourd'hui parler. Vous-même, par exemple, avez-vous peut-être décidé de changer pour ouvrir votre propre compte dans une banque coopérative, par choix bien sûr. Pour autant, l'économie sociale et solidaire peut-elle être l'alternative au capitalisme? A-t-elle du reste vraiment toutes les vertus qu'on lui prête? Le journaliste et directeur de la SCOP Alternatives économiques Philippe Frémaux a enquêté de l'intérieur. L'économie sociale et solidaire, là, nouvelle alternative, point d'interrogation, c'est aux éditions Les Petits Matins, Philippe Frémaux.
À force d'être dans ce milieu, j'ai parfois été un peu irrité par le fait que certains se poussaient un peu du col en pensant que ce qu'on apportait à la société pouvait porter en germe une société qui serait radicalement différente dans ses façons de fonctionner, alors que je vois plutôt dans l'économie sociale et solidaire une multitude d'initiatives qui contribuent à civiliser l'économie, qui portent toute une série d'alternatives avec un S. Mais d'ailleurs, de ce point de vue-là, le titre de notre magazine est tout à fait cohérent, puisque lui aussi il porte un S à alternatives économiques, parce qu'on ne croit pas qu'il y ait une grande alternative possible, mais qu'on pense que sur une multitude de choix sociaux, il y a différents termes qu'il faut discuter, différentes possibilités, et que certaines sont meilleures que d'autres, et c'est ça qu'il faut mettre en débat.
2012, année riche de choix, le premier Altermardi Parlons Solutions de l'année, 87e du genre, a réuni les deux figures de l'économie sociale et solidaire en la personne respectivement d'Hugues Sibyl, le vice-président du Crédit Coopératif, et de Philippe Frémaux. Les deux hommes se connaissent depuis une bonne trentaine d'années sur ce terrain de l'économie sociale et solidaire.
Je trouve que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a une position à la fois de sympathie, c'est-à-dire qui ne l'aborde pas d'emblée d'un point de vue de rejet ou d'un point de vue critique, mais qui, du fait de son métier de journaliste, en même temps, conserve un esprit critique qui, quelquefois, pour les gens qui sont à l'intérieur de l'économie sociale, fait un peu défaut, mais c'est aussi normal. Ils sont de l'intérieur, donc lui, il est à la fois de l'intérieur parce qu'il dirige une coopérative, et en même temps, il est journaliste, donc il a le recul du journaliste, et donc, du coup, son livre est intéressant. Je suis pas d'accord avec tout, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je suis pas forcément d'accord, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais on partage beaucoup de points de vue, et on se connaît, se pratique depuis 30 ans, donc tout ça est assez normal.
L'état des lieux de cette économie sociale et solidaire, tout d'abord, l'image qu'elle a d'elle-même est-elle fidèle ou bien en décalage avec la réalité? Philippe Frémaux.
Ce que j'ai confronté aussi, c'est les discours que j'entends à l'analyse des faits, tels que j'ai pu les accumuler au cours de mon expérience professionnelle. Ce que je dis simplement, c'est que quand on additionne tout et qu'on dit on est 2 millions de salariés, on représente 10% de l'emploi, on représente tant, on se paye un peu de mots parce qu'on mélange effectivement des patates et des carottes.
De fait, l'économie sociale et solidaire ne représente pas un mouvement en tant que telle. Elle n'a pas ce qu'Hugues Sibyl appelle « gagner la bataille des idées ». Et le journaliste de pointe est le fait que si seulement 10% des mutualistes étaient descendus dans la rue, la franchise médicale ne serait pas passée. Or, non seulement l'économie sociale et solidaire n'a pas ou pas encore gagné cette bataille des idées, mais elle a déjà fait montre de plus d'une faiblesse interne, la démocratie, l'une de ses grandes vertus qu'elle met en avant, eh bien, le vote, un homme, une voix, avec liste unique, aboutit trop souvent à l'élection d'un cacique avec un score digne de Ceausescu. Autre vertu de l'économie sociale et solidaire, l'absence de spéculation. Or, on le sait, confère Natixis, elle a quand même été prise le doigt dans le pot de confiture. Par ailleurs, l'un des leaders européens des OGM, eh bien oui, ressorti de l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, là, nouvelle alternative. L'état des lieux effectué par Philippe Frémaux est sans concession.
Et d'ailleurs, je pense qu'une grande partie des entreprises qui sont dans le secteur de l'entrepreneuriat social sont en fait des entreprises qui ont des statuts qui sont des statuts classiques d'économie sociale. L'évidence, c'est qu'elle garantit pas toutes les vertus et qu'on peut aussi être innovant sans être sous les statuts. Il y a des entreprises qui ont des statuts d'économie sociale qui ont fait les pires bêtises, et inversement, vous avez des entreprises hors statut qui font des choses intéressantes, mais bien souvent, en interne, par leur histoire propre, elles ont créé des modes de gouvernance qui se rapprochent d'un d'un certain point de vue, de statut d'économie sociale. C'est-à-dire qu'ils ont une gouvernance ouverte, ils ont aussi des écarts de salaire qui sont souvent contrôlés, toute une série de choses qui font que, d'un certain point de vue, en interne, ils ont recréé une sorte de statut. Et d'ailleurs, dans les débats qu'on a eus au sein du mouvement des entrepreneurs sociaux, il est caractéristique de voir que, alors qu'on admet les entreprises hors statut, on a fini par définir un certain nombre de critères d'adhésion qui, si on les regarde et qui on les met bout à bout, représentent très quasiment une sorte de nouveau statut.
La nouvelle alternative, point d'interrogation, a le mérite de mesurer l'économie sociale et solidaire et l'enthousiasme à l'aune de la réalité qui l'attend. Laure Wynne, coprésidente de l'atelier, le laboratoire de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France.
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est aussi quelqu'un qui n'est pas dans la langue de bois, du coup, de mettre un peu les points sur les i et de réfléchir en quoi l'économie sociale et solidaire, bien sûr, développe plein de choses qui sont bien, mais a aussi à s'interroger sur ses fonctionnements, sur ce qu'elle peut être, ce qu'elle peut pas être, ce sur quoi il faut qu'elle travaille aussi avec d'autres forces sociales, les syndicats, les acteurs publics, les forces politiques, etc. Et pas prétendre que l'économie sociale et solidaire, en soi, est une alternative qui, du coup, répond à toutes les questions, toutes les attentes qu'on a aujourd'hui. Je pense que c'est bien parce qu'on est bien dans la réalité et sur notre capacité de faire.
L'économie sociale et solidaire, la nouvelle alternative, point d'interrogation, tel le grand soir, la réponse est clairement non. Cela ne serait du reste pas très sain, ajoute Hugues Sibyl dans son entretien aux éditions L'Échiquier, la voie de l'innovation sociale. La démocratie doit être synonyme de biodiversité. La limite est ailleurs. Oui à l'économie de marché, non à la société de marché, rappelle le vice-président du Crédit coopératif dans cet entretien, qui adhère à cette déclaration de Lionel Jospin. Je suis choqué que les fonds de pension rachètent des cliniques privées. Hugues Sibyl.
Les cliniques privées, donc qui ont été montées par des privés, je trouve absurde qu'elles soient rachetées par des grands groupes internationaux, etc. Je trouverais formidable qu'elles se transforment en coopératives, qu'elles soient reprises par des mutuelles. Donc là, les collectivités locales ont aussi intérêt, s'ils veulent conserver un hôpital de jour, s'ils veulent avoir une maison de retraite, etc., à réfléchir à ces formes d'économie sociale.
C'est là que l'économie sociale et solidaire a un rôle capital à jouer, ni plus ni moins un rôle de garde-fou au sens propre du terme, Hugues Sibyl.
C'est une chose que je défends fortement, c'est le fait que si les citoyens veulent éviter de se plaindre trop de l'économie, il faut qu'ils s'en occupent eux-mêmes. Et donc ne pas attendre simplement de la part des dirigeants politiques ou des dirigeants économiques qui règlent les problèmes. Ça ne veut pas dire que le citoyen va se mettre à s'occuper de tout, mais effectivement, le citoyen, par exemple, par rapport à l'aspect énergétique, si il promeut une coopérative de production d'énergie, quelle qu'elle soit alternative, donc solaire, biomasse, éolien, et qu'il est une composante de ce projet-là, eh bien, il agit sur l'économie, il agit sur l'économie locale. Donc, on ne demande pas aux citoyens de se mettre à s'occuper de tout, mais dans un certain nombre de champs, il peut, s'il est dans une caisse d'épargne, il a le droit d'aller aux assemblées générales, il peut demander des comptes sur ce qui se passe, il peut demander ce que la caisse d'épargne a financé comme projets locaux, et donc, de plus en plus, je pense que le citoyen ne doit pas subir l'économie, mais le citoyen doit être en position d'acteur de l'économie. Encore une fois, il ne fait pas tout, mais il peut demander des comptes, il peut s'y intéresser, il peut promouvoir des initiatives, et c'est peut-être grâce à ça qu'on sortira de la situation difficile dans laquelle on est aujourd'hui, avec un chômage qui remonte dans les pays de l'OCDE et particulièrement en Europe. Donc on voit bien qu'on a un modèle qui n'est pas satisfaisant. Donc pour se sortir de ça, tout attendre du politique et du fait qu'on va changer le chef de l'État ou je ne sais pas qui, et puis que d'un seul coup les problèmes seront réglés, personnellement, je ne le crois pas. Je crois beaucoup plus au fait que ce soit l'ensemble de la société, comme le suggère Jean-Baptiste de Foucault à travers son pacte civique, se saisisse des problèmes dont elle peut se saisir pour essayer d'apporter des solutions.
Dans le monde d'aujourd'hui, il est une évidence étrange. Alors qu'il paraît normal d'investir des sommes colossales dans l'innovation technologique, il paraît aberrant d'investir dans l'innovation sociale. Confère certaines postures sémantiques qui ont reconsidéré, et ce n'est pas innocent, la santé, l'éducation, non plus comme autant d'investissements, mais des dépenses, sous-entendues des dépenses à perte, puisque sans retour immédiat sur investissement. Pire, et le risque revient à un véritable choix de société, l'économie sociale et solidaire se fait aujourd'hui concurrencer sur son propre terrain. Philippe Frémaux.
La question, c'est pas seulement nous de nous étendre, c'est de résister aux attaques que les sociétés de capitaux font dans notre secteur. Une grande partie des activités qui sont nées dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui sont parfois concurrencées par les sociétés de capitaux qui viennent sur des terrains où historiquement c'était le secteur associatif qui était puissant. C'est vrai dans le domaine de la santé, c'est vrai dans le domaine des maisons de retraite. Et de ce point de vue-là, là il y a une vraie interrogation sur notre capacité à avoir une qualité de management qui fait qu'on est compétitif et compétitif pour proposer des solutions qui sont des solutions de meilleure qualité sur le plan de la qualité du social, du service rendu aux usagers.
Pour Hugues Sibylle, cela fait de longue date qu'il agit pour une modélisation public-privé, une collectivité territoriale partenaire d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Cet ancrage territorial est essentiel pour préserver les secteurs sociétaux des vents de la spéculation.
J'y tiens parce que je pense qu'effectivement la mondialisation fait que pour essayer de la contrebalancer ou en tout cas de l'équilibrer, on essaye d'inventer des économies locales plus localisées que précédemment, plus fortes. Et donc, pour bâtir ces économies locales, il y a des partenariats à construire entre les collectivités territoriales, des gens qui sont enracinés sur le territoire. C'est le cas de la collectivité territoriale, mais c'est aussi le cas souvent des coopératives ou c'est le cas des entrepreneurs sociaux qui se créent. Donc, il y a des partenariats à inventer. Par exemple, pendant longtemps, les collectivités locales ont créé des sociétés d'économie mixte. Ça n'avait rien d'économie sociale. C'était des sociétés dans lesquelles la collectivité locale avait la majorité du capital avec quelques partenaires. On peut imaginer aujourd'hui des partenariats public-privé avec les collectivités locales qui soient à forme coopérative, c'est-à-dire plus à forme de société économique, mais à forme coopérative. C'est-à-dire que ce sont des sociétés coopératives, mais la collectivité locale est partenaire. Par exemple, dans le domaine de l'énergie, pour fabriquer et produire des énergies et les distribuer. Donc, on voit que ça se développe, des coopératives d'intérêt collectif comme Enercoop, dans le solaire, dans l'éolien, dans la biomasse. Donc, et là, il y a un intérêt partagé entre la collectivité locale et puis l'économie sociale.
On se souvient qu'en 2009, dans le quasi-silence des médias, à Paris et en plein mois d'août, l'hôpital Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement, a bien failli fermer. Quel accès aux soins aurait-tu alors ? Les habitants de ce quartier populaire non moins peuplé, c'est le groupe SOS qui l'a sauvé de la fermeture, un peu en urgence, car la nouvelle a bien failli passer inaperçue. Sa présence a été remarquée lors de cet altermardi Parlons Solutions, la présence de Seba Dagoma, l'adjointe au maire de Paris chargée de l'économie sociale et solidaire. La ville de Paris est désormais partenaire des altermardi Parlons Solutions. Seba Dagoma.
Vous savez, on est extrêmement mobilisés. On intervient donc dans le cadre de cette politique en termes d'insertion, une insertion et de lien social, d'aide à la création d'entreprises de l'économie sociale et à l'innovation sociale et de solidarité internationale. Je citerai deux chiffres. L'année dernière, 3 000 Parisiens ont retrouvé un emploi grâce à ce secteur. Et depuis mon élection en 2008, 10 000 Parisiens ont retrouvé un emploi.
Le groupe SOS, la région, depuis un certain temps déjà via l'atelier qui est le laboratoire de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France, et désormais la ville de Paris, voilà bien la modélisation, le prototype en quelque sorte de cet ancrage sociétal à l'échelon local, le tout car il n'échappe à personne que Paris est un échelon local avec sa dimension nationale, de surcroît très entouré dans un bel écheveau politique, donc un ancrage pour en hypothèse haute, construire, en hypothèse basse, préserver de la destruction. De fait, l'économie sociale et solidaire se doit d'être inventive. À inventif, il faut être inventif et demi, uxibila.
De ce point de vue-là, ne sous-estimons pas le fait que le capitalisme est assez capable de se remettre en cause à certains moments sur certaines choses. Il dit bon, ça marche pas, il abandonne et il fait autrement. Donc c'est important que l'économie sociale sache aussi re-questionner ce qu'elle fait, ses pratiques, etc. pas par masochisme, pas pour le plaisir de se donner des coups de fouet avant d'aller se coucher, mais parce que c'est ce qui fait avancer. Donc si les jeunes générations n'ont pas le même rapport à la vie coopérative que les anciennes générations, il faut en tenir compte, sinon bien ça ne les intéressera pas. Et donc de ce point de vue-là, oui, il est important, c'est ce qu'on essaye de faire avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, avec d'autres, d'être capable de se re-questionner, de se remettre en cause pour progresser.
Au risque de décevoir les adeptes du grand soir, l'économie sociale et solidaire a donc tout intérêt à se prendre pour ce qu'elle est, à garder sa place, car l'ancrage local n'a rien d'une seconde zone. Au contraire, elle évitera ainsi à la société l'autre alternative, celle des matins qui déchantent.